FI.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'importance de préserver les arbres et les forêts à l'échelle de la planète, car chaque année, 15 millions d'hectares disparaissent. C'est l'équivalent de la surface de la Belgique. Pourtant, comme nous l'avons vu dans la première partie de l'émission, ces écosystèmes nous rendent des services indispensables, comme la lutte contre la pollution de l'air, la filtration de l'eau, la réduction de l'érosion des sols et la séquestration du fameux CO2 responsable des changements climatiques. Heureusement, de nombreuses personnes dans le monde se mobilisent contre cette catastrophe et nous en avons avec nous dans ce studio Jonathan Guyot, cofondateur de All for Trees, une communauté de personnes engagées dans ce genre de projet, qui était avec nous dans la première partie de l'émission, et deux autres personnes nous ont rejoints. Stéphane Allaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président et directeur général de Reforest Action. Je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Reforest Action est une initiative que j'ai créée en 2010 et qui a pour vocation à restaurer des forêts dégradées en France et dans le monde. On a commencé par l'international, au Sénégal, puis au Pérou, en Inde et dans différents pays et continents. Et aujourd'hui, notre proposition, c'est de planter les arbres près de chez soi, ou ailleurs dans le monde, de façon à avoir un impact positif sur le monde, sur le climat et la biodiversité en particulier.
Voilà, toute une ambition formidable. Et à vos côtés, Jean-Marie Déhoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Saltus. Alors, vous avez travaillé en milieu tropical. Aussi, vous avez cofondé Pure Projet, qui intervient dans le monde entier. Mais avec Saltus, vous vous concentrez sur la France.
Voilà, parce qu'on a compris que, à la lumière de ce qu'avaient fait les Romains, la civilisation romaine, et après avoir bien vu aussi ce que faisaient les populations villageoises un peu partout en secteur intertropical, qu'il y avait une sagesse à réinvestir, et que cette sagesse, elle se trouvait dans le choix et le positionnement de l'arbre au bon endroit pour le bon usage, et que cet arbre, eh bien, il suffisait pas simplement de faire appel uniquement à lui, mais aussi à l'espace qu'il occupe, c'est-à-dire l'abandon herbé, le chemin, le parcours, la lisière, voilà, qui a le service affecté à l'arbre, mais que cet arbre, ses services, il ne peut pas les rendre, et il ne peut pas les partager avec la forêt, l'agriculture ou le maraîchage, s'il n'est pas lui-même entouré d'une biodiversité dont il dépend.
Et en France, c'est vrai qu'il y a quand même un réel besoin, notamment parce qu'on a saccagé nos sols avec une agriculture très intensive et des produits chimiques qui ont vraiment rendu nos sols complètement inexistants, en tout cas morts. Et là, il y a un vrai potentiel avec l'arbre, c'est ce que vous faites.
Exactement.
C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Alors voilà, expliquez-nous ce que c'est.
L'agroforesterie, c'est le principe d'associer à une culture annuelle ou à un type d'élevage la présence de l'arbre dans des conditions bien définis, qui sont assez techniques, qui visent à investir des besoins liés au sol, au climat et à l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur est-ce qu'il y a un besoin de se protéger du vent ? Est-ce qu'on a besoin de protéger les sols ? Est-ce qu'on a besoin de concentrer l'eau ? Est-ce qu'on a besoin d'accueillir tel insecte qui va venir en prédateur sur une peste ou sur un ravageur de la culture ? Est-ce qu'on a besoin d'apporter du fourrage à l'animal ? Voilà, l'arbre, c'est une formidable usine présente partout et capable d'offrir plein de services. Mais il s'agit de scientifiquement, techniquement et en accord avec les populations, toujours de partager pour savoir qu'est-ce qu'on met à quel endroit de façon fine et précise et dans la durée, comment est-ce qu'on va l'entretenir aussi, comment est-ce qu'on va léguer ce patrimoine. Donc c'est tout un travail permanent d'identification, de conseil et de suivi dans le temps, en fait, dans la durée.
Stéphane Allaire, vous partagez, j'imagine, ce constat ?
Bien sûr, je le partage. On a, chez Reforest Action, on agit beaucoup en forêt. On a aussi des projets agroforestiers en France, mais à l'international.
Donc vous faites ce qu'on appelle du reboisement.
Alors on fait du reboisement et de la reforestation. Alors la différence entre les deux, c'est est-ce qu'il y a eu déforestation avant de la plantation finalement ? On pourrait le résumer comme ça. Quand il y a eu de la déforestation, comme c'est le cas dans beaucoup de régions du monde, comme l'a rappelé Jonathan, eh bien on peut parler de reforestation, où on vient réintroduire l'arbre dans un milieu qui lui est naturel et où il apporte des services aux populations, mais pas que aux populations, aussi à la diversité, la biodiversité en place. Le reboisement, c'est quand on intervient dans des parcelles forestières qui peuvent être durablement gérées, comme en France. Il n'y a pas de déforestation en France, ou il n'y en a plus, disons.
Le couvert forestier en France a augmenté. Hein.
Alors voilà, ça c'est un éternel débat. Le couvert forestier a augmenté, il augmente. Après, ce sont des forêts d'une qualité très diverse. Donc, moi, j'ai toujours un petit peu de mal à parler de forêt quand il s'agit en fait d'une friche ou d'un terrain à l'abandon où on a deux, trois noyers qui poussent un petit peu tordus et puis le reste, c'est de la ronce. Mmh. C'est qualifié comme de la forêt. Ça a un intérêt en termes de biodiversité, mais ça n'est pas peut-être autant d'intérêt qu'une forêt plus diversifiée.
Donc, quand on dit plus 10% de forêt en France en 30 ans...
Eh bien, c'est vrai si on regarde les statistiques. Après, il faut avoir un regard qualitatif.
Faut voir ce qu'on appelle forêt. Ouais. Jean-Marie Déhou.
Alors, on a de plus en plus de forêts, évidemment, mais elle ne répond pas aux besoins de l'industrie des filières bois. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de produire le bois dont on a besoin aujourd'hui et encore moins celui dont on aura besoin demain. Le gros problème de la forêt française, c'est son morcellement, parce qu'elle est à 75% détenue par des petits propriétaires privés. Voilà, les lots font 1 à 2 hectares, donc ils réunissent pas les conditions d'exploitation qui permettraient en fait de faire intervenir des experts forestiers, des gestionnaires, des bûcherons. Donc c'est une forêt qui périt sur pied. Donc c'est tout un capital dont on ne peut pas bien tirer parti en fait. Donc il y a tout un travail en France pour remembrer, rassembler ces forêts privées pour leur donner une possibilité d'être exploitées.
Stéphane Allaire.
Alors c'est vrai qu'il y a un enjeu sur la filière économique française, comme quoi les bois finalement sont peu accessibles. Alors je dirais pas que la forêt française périt sur pied, je suis pas sûr que ce soit une vision très holistique des choses. C'est vrai que la forêt française a un rôle économique à jouer. Il y a 450 000 personnes qui vivent de l'industrie forestière en France, c'est pas rien. Maintenant, la forêt, c'est un lieu de vie et qu'une forêt qui est peu accessible, finalement, va développer d'autres services. Si elle est sur un bassin versant, eh bien oui, elle va filtrer l'eau et ça va permettre de ne pas construire une station d'épuration, par exemple.
Jonathan Guyot, quand on entend ces témoignages, on se dit que c'est quand même difficile de donner des leçons aux pays en développement en leur disant « préservez vos forêts » alors que nous, on n'a pas vraiment su préserver les nôtres, finalement.
On a tous à agir à notre niveau, je pense, aujourd'hui. On l'a vu avec pas mal de discussions internationales. Par exemple, la COP21 a dit on est tous responsables des changements climatiques, nous devons tous agir. On a aussi les objectifs de développement durable qui nous mettent tous, qu'on soit un pays développé ou un pays en voie de développement, dans le même bain. On doit tous aujourd'hui contribuer à préserver nos ressources, notre biodiversité et tout ça. Donc, effectivement... Il n'y a pas un pays qui est mieux, on a tous chacun nos problématiques, on a chacun avancé. Je pense aussi qu'on a beaucoup à apprendre et l'agroforesterie est un très bon exemple. C'est qu'on avance énormément en agroforesterie en milieu tropical et on en discutait tout à l'heure avec Jean-Marie Déhou. C'est qu'aujourd'hui, on commence petit à petit à se réapproprier cette culture ancestrale qu'on étend de plus en plus en milieu tropical, ici en France. Donc on a tous à apprendre, je pense, chacun des autres. Et aujourd'hui, l'urgence climatique, par exemple, nous demande d'agir de plus en plus vite, que ce soit ici en France ou ailleurs dans le monde.
Alors malgré tout, il y a des lieux où la tension est palpable, hein, comme en Guinée-Conakry. Bonjour Hector Vévé Guilavogui.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes le responsable international du collectif Touche pas à ma forêt, qui a été créé par de nombreux Guinéens pour défendre les forêts de Ziama et de Djéké, qui se trouvent à la frontière avec le Libéria. Quelles sont les menaces qui pèsent sur ces forêts ?
Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer par rapport à cette thématique si cruciale aujourd'hui en Guinée. Pour faire un bref rappel historique, en fait, il y a une société qui s'appelle Forêt Forte qui sévit dans la région depuis 2002. Donc, cette entreprise a été créée par un homme d'affaires chinois, donc PDG d'une autre entreprise, Guji Corporation. Il se trouve en fait que cette société est une société fictive, donc une société écran. Donc, c'est ainsi que Forêt Forte a été créée en 2002. Cette société, donc, Forêt Forte a pour activité principale la coupe du bois. Donc cette société a fini, au bout des 16 années de son existence en Guinée, à dévaster complètement la région autour de la préfecture de Zérékoré. Et maintenant, n'ayant plus de bois à couper, cette société s'est vue, par le biais d'un décret signé par le président Alpha Condé, donc s'est vue attribuer l'exploitation de deux forêts classées, dans l'occurrence Ziama, 220 000 hectares, et de Djéké, donc de 64 000 hectares. Sauf que la population riveraine, les villageois notamment, sont totalement opposés à l'exploitation de ces forêts qui ont une importance énorme dans la région. Et c'est ainsi que le collectif Touche pas à ma forêt a été créé cette année, début d'année 2018, pour faire face justement à cette menace.
Et alors, pour protéger la population locale, hein, vous organisez une mobilisation au niveau de la diaspora. Où en est votre mobilisation aujourd'hui?
Alors, la mobilisation, effectivement, se trouve à deux niveaux. Sur le terrain, nous avons une équipe en place. Nous avons entamé une campagne de communication. Nous intervenons dans les médias locaux et nous sensibilisons les populations villageoises sur le terrain. Mais ce que nous créons donc dans cette mobilisation, c'est la répétition d'un scénario qu'on a déjà connu dans la région. C'est-à-dire, il y avait le village de Zorota et de Gromé qui était opposé il y a quelques mois de cela à un projet du gouvernement. Et ça a fini en massacre parce que l'État en face a purement et simplement envoyé les militaires pour mettre de l'ordre. Et ça a dégénéré. Donc c'est ce scénario que nous créons aujourd'hui.
Alors vous avez demandé à rencontrer le gouvernement et le député de la région. Pour l'instant, sans succès, quelle est votre stratégie pour les mois qui viennent?
J'en viens à notre stratégie à l'échelle internationale. Au niveau de la France ici, notamment, nous avons déjà contacté le Quai d'Orsay hier. Et ils nous ont dit donc d'adresser un courrier. Et nous avons également contacté Greenpeace, UNESCO et également France 24.
Donc, la stratégie, et RFI maintenant.
Donc la stratégie, c'est vraiment de mener une campagne de communication la plus large possible pour que tous les projecteurs soient braqués maintenant sur cette question avant que ça vire à un drame humain. Nous avons effectivement essayé de contacter le ministère guinéen de l'Environnement, mais ils nous ont opposé une fin de non-recevoir. Et quant au député, il est en train, donc malheureusement, de faire la campagne pour ce projet. Il est allé même jusqu'à dire que l'UNESCO soutenait ce projet. Mais nous avons contacté par la suite l'UNESCO qui lui a opposé un démenti catégorique et qui nous a réitéré son soutien indéfectible.
Merci Hector Vévé Guilavogui. Vous nous tiendrez au courant évidemment des suites de cette mobilisation. Messieurs, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage, Jean-Marie Déhoux?
Enfin, c'est magnifique de mobilisation et ça effraie sur l'aveuglement en fait des possédants, de ceux qui vivent dans des milieux complètement artificialisés et qui ne font que ponctionner, s'approprier et marchandiser des biens naturels dont dépendent des populations, en fait, des cultures, des savoirs, des pharmacopées dont parlait Jonathan.
Donc c'est... Oui, et puis des ressources naturelles, parce qu'il n'y a aucune retombée sur les populations locales. Hein. Tout part en Chine directement et les gens sont très mal payés. Donc ce n'est pas une source de développement économique pour le pays, Jonathan Guyot.
En fait, même plus largement, ce cas-là, voilà, est vraiment dramatique. Mais chaque année, il y a plus de 300 personnes qui meurent, des activistes, notamment au Brésil, en Amérique du Sud, dans leur lutte quotidienne pour préserver les forêts, contre la déforestation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des gros intérêts quand même économiques, politiques, qui jouent sur la forêt. C'est pour ça que c'est des sujets très complexes quand on parle de l'huile de palme, quand on parle de la déforestation. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est que derrière, on oublie aussi qu'il y a des vies qui sont en jeu. Il y a les populations, il y a des activistes qui meurent chaque jour liés à la déforestation.
Stéphane Allaire.
Vous savez, on se demande souvent, quand quelque chose nous choque, ce qu'on peut faire. Alors moi, je suis admiratif de monsieur, je ne me risquerai pas à prononcer son nom de famille.
Hector Vévé Guilavogui.
Merci. Parce que là, c'est l'illustration pleine et entière du fait que oui, on peut agir. Il le fait, je trouve, de façon très engagée et très intelligente, puisque il a une approche pacifiste, finalement, il est... non violente, mais il essaye de jouer sur tous les leviers, à la fois locaux et internationaux. Je trouve ça bien pensé et malheureusement nécessaire.
Jonathan ?
Et je pense que ce scénario doit nous appeler à agir chacun dans notre quotidien. En fait, je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit citoyen du monde, hein, qu'on soit ici en France ou ailleurs, on peut agir à notre niveau pour réduire notre impact sur la déforestation. Et c'est là que c'est important. On peut devenir peut-être des consommateurs, comme certains aiment le dire. Par exemple, on parlait de l'élevage bovin tout à l'heure. Il faut aujourd'hui réduire notre consommation de viande rouge, que ce soit pour les forêts, pour le climat. Éviter au maximum la consommation d'huile de palme. Aujourd'hui, on en trouve dans beaucoup d'aliments, mais aussi nos carburants. Limiter notre consommation de papier, favoriser le recyclé, favoriser des labels de certification durable pour tous nos ameublements. Voilà, aujourd'hui, on peut agir à notre niveau et c'est ça qui est important. Je pense même avant de soutenir la reforestation, quelque part, agissons à notre quotidien pour lutter contre la déforestation.
Et il y a des zones où la reforestation progresse, même en Amérique latine. Nous en parlons juste après une petite pause musicale.
crying storm. When I'm looking for the rainbow, you know what did they learn? Since that very day, walking by the river and running like a blue streak through the fields and streams and meadows, laughing all the way. Oh, a redwood tree, please let us under. When we were young, we used to go under the redwood tree. A boy and his father. When I looking for the lost dog. Never what? Oh, and have they learned? Since they did that together, they did not bring him back. He already had parted. But look at everything they have learned since that.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'importance de préserver les arbres et les forêts du monde aujourd'hui avec nos invités. C'est vrai que le bilan est plutôt négatif, on coupe plus qu'on en plante, mais il y a de nombreuses initiatives qui tentent d'inverser cette tendance. Bonjour Daisy Terrier.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors vous êtes la présidente d'Envolver qui intervient au Nicaragua, au Pérou et en Colombie. Vous êtes d'ailleurs en ligne depuis Bogota et le slogan d'Envolver, c'est « La forêt nous rend service, rendons-le lui ». Et vous travaillez avec les paysans pour qu'ils comprennent justement qu'un arbre planté a plus de valeur qu'un arbre coupé.
Oui, en effet, on cherche à donner de la valeur à la forêt sur pied plutôt que de la voir se déforester pour des raisons économiques, quand on sait que justement la forêt est extrêmement riche et que sur pied, la forêt en soi peut apporter énormément.
Alors vous travaillez notamment avec les Santerre en Colombie, hein, sur la côte Caraïbe. Vous avez deux projets avec entre 30 et 40 bénéficiaires à chaque fois. Expliquez-nous comment vous travaillez avec eux, comment vous faites pour leur expliquer que la préservation de leur environnement passe par la valorisation des arbres.
Alors en fait, on a vraiment trois grands axes de travail avec eux. Il est certain que notre objectif final, c'est la conservation de la forêt, mais on va travailler beaucoup avec eux sur toute la partie, ce qu'on appelle le développement rural. Donc ça va être aussi bien la sécurité alimentaire que la création d'alternatives économiques. Donc d'un côté, on va vraiment travailler avec eux sur la mise en place de pépinières, la recherche d'arbres fourragers, fruitiers, la récolte, l'installation de ces arbres sur des parcelles en agroforesterie. Mais d'un autre côté, on va aussi travailler avec eux sur la diversification de leur culture agricole pour justement pouvoir améliorer leur santé, surtout leur alimentation, on va dire, quotidienne, et qu'ils aient suffisamment pour alimenter l'intégralité de la famille. Et dans un autre côté, on va aussi travailler avec eux sur les produits que l'on peut développer et vendre.
Notamment donc, avec exemple, le noyer maya, par exemple.
Voilà, exactement. Un des produits, c'est le noyer maya. Alors lui, il fait vraiment double usage. C'est un arbre qui est extrêmement riche au niveau alimentation, qui apporte du calcium, du phosphore, des protéines, etc. Donc on va travailler à la transformation des graines de cet arbre, On va en faire des confitures, on va en faire des infusions, on va en faire de mélanger à différentes recettes traditionnelles, à la fois pour que les femmes puissent l'utiliser, le réintégrer, parce que c'est ancestralement complètement utilisé par la population. Donc le réintégrer à leur alimentation, d'une part, et aussi pour que les produits qu'elles transforment puissent être vendus plutôt à une échelle locale et que ça bénéficie donc à l'économie du village. On a fait aussi une ligne de transformation de la fleur d'hibiscus et puis une ligne d'agrotourisme. Donc tout ça, ça leur permet d'améliorer leurs revenus et de se rendre compte que la forêt et les activités environnementales au sens large ont plus de valeur effectivement que s'ils coupent le bois, ou notamment pour en faire du charbon.
Et alors 60% de la déforestation en Amérique latine est due à l'élevage. Du coup, vous travaillez aussi dans les différents pays où vous intervenez avec les éleveurs. De quelle manière ?
L'idée, c'est vraiment d'intensifier l'élevage, non pas de l'extensifier, mais de l'intensifier pour que ça prenne moins de place sur la forêt. Donc pour ça, il faut mieux alimenter les vaches et les pâturages traditionnels tropicaux sont vraiment pas très forts en apport énergétique. Donc on les complète avec de l'apport nourricier d'arbres, des arbres qu'on appelle des arbres fourragers. Donc on va replanter au sein des parcelles plusieurs de ces arbres fourragers-là, à des intensités variables selon les schémas qui sont décidés avec les agriculteurs, pour qu'ils puissent justement utiliser ces arbres pour alimenter leur bétail. On dit avec le noyer maya qu'avec un hectare de plantation de noyer maya, donc 120 arbres, on peut alimenter 30 vaches dans l'année. Alors que généralement, en Amérique latine, il faut un hectare pour une vache.
Et maintenant, vous avez 6 années de recul. Est-ce que vous vous rendez compte si ça marche, si ça prend, ce que vous transmettez comme ça à ces communautés locales ?
Oui, alors on s'est rendu compte, notamment sur notre projet en Caraïbes, en Colombie, qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans la façon de penser des paysans. Ils ont arrêté les pratiques d'abattiboli. Ils se sont rendus compte que leur parcelle donnait plus, c'était plus efficace quand justement ils ne brûlaient pas, qu'ils laissaient du paillage sur le sol et qu'il y avait plus d'humidité. Et puis surtout, ce qui est très très beau, c'est qu'aujourd'hui, ces agriculteurs-là, ces paysans-là, veulent eux devenir les formateurs d'agroécologie de communautés autour. On a créé avec eux une association de paysans et à travers cette association, ils veulent donc devenir eux-mêmes les formateurs. C'est le succès de ce projet-là notamment qui nous a engagés à lancer 2 à 3 nouveaux projets cette année qui seraient des répliques finalement de ce projet-là.
Merci beaucoup Désiterier pour toutes ces explications.
Avec plaisir.
Alors, tout le monde ne peut pas agir comme Daisy Terrier avec Envol Vert sur 3 pays, mais qu'est-ce que vous pourriez recommander en quelques mots pour que chacun puisse se sentir concerné par cette problématique, Stéphane Allaire ?
Alors, je crois que chacun, effectivement, peut agir au quotidien. Alors, sur Reforest Action, on peut planter un arbre, ça coûte 3 euros, ça c'est facile. On choisit le lieu, d'ailleurs, de plantation, près de chez soi ou ailleurs dans le monde. Mais au-delà de ça, je pense que il y a tous les jours, dans ces actes de consommation, il y a un tas de petits réflexes à acquérir, préférer typiquement tout ce qui est labellisé. Il faut savoir, Jonathan parlait de la pression sur les forêts mondiales tout à l'heure. C'est vrai que la déforestation continue de faire rage et s'accélère par endroits. Aujourd'hui, avoir une gestion durable des forêts, c'est juste un incontournable. On ne peut pas en faire l'impasse. Du coup, en tant que consommateur, s'appuyer sur ces labels qui garantissent autant que possible, à s'assurer que les forêts sont gérées durablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déforestation quand on achète un produit en bois ou issu du bois, c'est particulièrement important et évidemment, moi, j'y suis particulièrement sensible.
Jean-Marie Déhou ?
Alors, ce serait de consommer, de s'alimenter, puisque c'est une des choses qu'on fait quotidiennement plusieurs fois par jour, en s'interrogeant sur l'origine de ces aliments et est-ce qu'ils sont pas liés, puisque l'agriculture, elle est redevable de la forêt, puisque si les sols sont fertiles, c'est parce que souvent ils ont été précédés par des forêts qui les ont amendés pendant des dizaines de milliers d'années. Et donc, se demander si la nourriture qu'on consomme, elle n'est pas issue de...
Mais ce n'est pas forcément simple de le savoir. Quand on achète, justement son aliment?
Alors il y a certains types, Jonathan a parlé de la baisse de la consommation de viande. Et puis, c'est essayer de toujours favoriser des produits locaux, des circuits courts, et qui sont issus de modes agricoles qui font intervenir l'arbre, puisque consommer des produits de l'arbre, c'est aussi assurer sa pérennité, sa régénération et notre dépendance vis-à-vis de lui. Donc, plus on en consomme et plus on a envie de le protéger et d'en avoir, plus on est dépendant.
Jonathan Guyot, le mot de la fin.
Envolver a développé un très bon outil qui est un calculateur de notre empreinte forêt. Donc, j'invite les auditeurs à l'essayer pour justement voir les modes de consommation qui impactent fortement les forêts. Après, ça va du geste très simple de choisir une banque qui ne finance pas la déforestation. Beaucoup de banques investissent, bah, par exemple, dans l'huile de palme. Et de savoir qu'on peut soutenir voilà, toutes ces initiatives sur le terrain qui chaque jour agissent à lutter contre la déforestation. On en a vu beaucoup aujourd'hui, mais il y en a énormément. On a identifié plus de 250. J'invite même les porteurs de projets à nous rejoindre pour qu'on puisse faire la promotion de nos initiatives. Voilà, il faut agir dans notre quotidien et surtout pas oublier de soutenir ces initiatives qui chaque jour essaient de changer le monde.
Voilà, il y a un site allfortrees.org. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Et à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission et la partager grâce à notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, rubrique émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.